Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de regarder le texte de dimanche prochain de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31. Nous serons tout particulièrement attentifs aux deux refus d'envoyer Lazare. Nous tâcherons d'en comprendre les motifs et d'en mesurer la portée. En effet, cela aura des conséquences sur notre rapport aux nécessiteux, mais aussi sur notre façon d'évangéliser. Commençons par lire le texte. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance, mais en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, père, je t'en prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Ce texte forme un ensemble cohérent. Nous savons que Jésus s'adresse à la fois à ses disciples, mais aussi aux pharisiens qualifiés d'amis de l'argent, qui se moquent de l'enseignement qu'il vient de donner à ce sujet. Après le passage que nous avons lu, Jésus commence un autre enseignement à destination de ses disciples. Notre passage peut être divisé en 2 temps. Il y a une introduction sur la vie des deux, le riche d'un côté et le pauvre Lazare de l'autre, et puis un 2e temps qui est le dialogue dans l'au-delà entre le riche et Abraham. Ce dialogue est ponctué par 2 demandes d'envoyer Lazare. Le riche demande une première fois qu'on lui envoie Lazare pour le soulager, et une 2e fois, il demande Lazare pour qu'il aille mettre en garde ses frères. Dans les 2 cas, il obtient un refus de la part d'Abraham. Force est de constater que nous ne sommes pas forcément très à l'aise avec les 2 refus qui sont énoncés, parce que dans les 2 cas, la demande pouvait nous sembler légitime ou charitable. Vouloir être soulagé lorsqu'on est dans les tourments, est-ce que ce n'est pas légitime? Faire prévenir ses frères pour éviter qu'ils ne se perdent, n'est-ce pas charitable? Et pourtant, dans les 2 cas, Abraham oppose un refus. Essayons de comprendre pourquoi. Le motif du premier refus est qu'il y a un gouffre infranchissable qui empêche de passer d'un côté à l'autre. Mais cela a un caractère intrigant. Si c'est un gouffre infranchissable, comment se fait-il que le riche ne le voit pas? Comment se fait-il que le riche n'ait pas idée que, bah oui, de fait, je vois ce gouffre et nul ne peut le franchir? Cela nous amène à remonter à la situation d'avant le décès des 2. On nous a décrit que le pauvre Lazare était au porche du riche. Il était au porche de sa maison, donc chaque fois qu'il sortait de sa maison, il pouvait le voir, mais que pourtant jamais il ne reçut quelques miettes, quelques restes des festins que chaque jour le riche faisait. Comment se fait-il que de cet excédent qui tombait régulièrement de la table, il n'y ait jamais rien eu pour Lazare? Y avait-il donc un gouffre infranchissable dès cette époque entre lui et Lazare pour que jamais il ne s'en préoccupât? En fait, ce riche dans sa vie a bâti dans son cœur un gouffre infranchissable entre Lazare et lui. Ce n'est pas qu'il n'avait pas vu Lazare, on le voit bien. Il connaît son nom, il est capable de le reconnaître de loin. Il savait qu'il était là, et il n'est jamais allé à lui. Il a de son vivant établi dans son cœur un gouffre infranchissable entre Lazare et lui, et ce gouffre infranchissable, il le retrouve en vie éternelle. C'est lui-même qui l'a bâti. De son vivant, il a bâti un gouffre invisible et infranchissable. On ne voyait pas de précipice qui sépara la maison du porche du riche, et pourtant il n'est jamais allé à Lazare. Eh bien, en vie éternelle, il retrouve ce gouffre invisible et infranchissable. Résumons l'enseignement de ce premier refus de l'envoi de Lazare. Premièrement, nous façonnons durant notre vie la géographie de notre vie éternelle. Soit l'usage de nos biens, l'usage ne serait-ce que de l'excédent de nos biens, sert à bâtir des ponts avec les autres hommes, avec les nécessiteux, et alors ils nous accueilleront dans les demeures éternelles, comme le disait le texte que nous avons entendu dimanche dernier. Soit nous nous comportons comme s'il y avait un gouffre, et ce gouffre nous séparera éternellement. C'est le deuxième point. Entrer dans la vie éternelle, le jugement est définitif. Vous remarquerez une chose, c'est que le cœur qui ne s'est pas ouvert ne s'ouvre pas plus en vie éternelle. En effet, il n'y a aucun repentir de la part du riche qui soit manifesté vis-à-vis de Lazare. Il aimerait bien que Lazare intervienne pour le soulager, mais il ne profère aucun regret de ne pas être allé vers lui durant son existence. Au passage, souvenons-nous d'une chose, la signification du prénom Lazare, Lazare ou El et Hazar, c'est-à-dire Dieu aide. El, Dieu, Ezer, secours, aide. L'homme véritablement ami de Dieu a envie d'aider du coup comme Dieu aide. Le prénom même de Lazare était une interpellation pour le riche, qu'il n'a pas saisi. Commence alors la deuxième partie du dialogue avec le deuxième refus, le refus d'envoyer Lazare prévenir les frères. Le motif invoqué par Abraham, ils ont déjà Moïse et les prophètes. Et rien ne sera plus efficace que ce don de Moïse et des prophètes qui a déjà été fait et qui est à leur portée. Abraham récuse une illusion, l'illusion que je me convertirais bien sûr si j'avais un signe extraordinaire, si j'avais un signe du ciel ou quelqu'un qui reviendrait d'entre les morts pour me prévenir. La parole d'Abraham est très ferme, s'il ne croit pas Moïse et les prophètes, un homme pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne croiront pas. On a d'ailleurs des signes de cette réalité ailleurs dans l'Évangile. Lorsque Jésus guérit un possédé en chassant le démon, et certains vont interpréter en disant « mais c'est par le chef de démons qu'il chasse les démons », ils ne reconnaissent pas l'œuvre de l'Esprit-Saint. Ou lorsque Jésus ressuscité apparaît aux apôtres, et l'on peut nous dire que certains avaient des doutes. Ainsi, de ce deuxième refus d'envoyer Lazare, nous tirons l'enseignement suivant. Ce qui nous dispose à la vie éternelle, c'est la familiarité avec les Écritures. Dans l'Évangile, on dira que ce qui résume la loi et les prophètes, ce qui résume Moïse et les prophètes, c'est le double commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Celui qui est familier de l'Écriture, de l'histoire sainte, celui qui se l'est approprié, celui qui va y chercher sa lumière et sa nourriture chaque jour, en sera imprégné et transformé. En définitive, cet évangile nous amène à nous interroger de la façon suivante. À partir des biens dont nous disposons, ne serait-ce qu'à partir de l'excédent des biens dont nous disposons, nous faisons-nous un trésor dans le ciel? Nous faisons-nous des amis avec cet argent qui peut disparaître, afin qu'il nous accueille dans les demeures du ciel? En comprenant aussi que le partage de nos biens ne concerne pas seulement nos biens matériels, mais aussi nos talents et nos biens spirituels. Nos talents trouvent-ils à être au service de la communauté? Imaginons quelqu'un qui chante dans un chœur, qui a une belle voix. À quel moment met-il ce talent au service de la louange de Dieu, au service du peuple de Dieu? C'est une vraie question. Et vous pouvez remplacer le talent du chant par le talent de l'organisation, par le talent de l'accueil, par le talent de la cuisine, etc. Le bien spirituel, c'est notamment le fait d'avoir connu le Seigneur, de vivre du Seigneur. Et nous découvrons du coup là la nécessité d'aller vers l'œikos pour lui partager la joie que nous avons à connaître le Seigneur, pour lui partager ce trésor de l'alliance avec le Seigneur. Ne laissons pas des gouffres d'indifférence, des gouffres de peur, des gouffres de retenue humaine nous empêcher de partager le trésor qui nous a été confié. Enfin, est-ce que nous lisons l'Écriture? Sommes-nous familiers de l'Écriture? Est-ce que chaque jour nous avons un temps où nous allons lire l'Écriture? Est-ce que nous avons pris l'habitude d'organiser notre semaine de sorte que nous puissions avoir une lecture continue, ne serait-ce que des évangiles? Et allez, disons, des évangiles et des psaumes. Pas seulement la lecture des textes que nous entendons à la messe, mais une lecture continue. C'est la lecture continue qui nous permet de cheminer avec le Christ comme il a conduit ses apôtres sur les routes de Judée et de Galilée. Sur ce, chers amis des cellules, je vous souhaite de bons échanges.